Bonjour les joueuses, bonjour les joueurs. Nous sommes le 23 février 2019 et vous écoutez une interview de Proxy Jeux réalisée lors du Festival International des Jeux de Cannes 2019. Je suis Paul Gara et je suis accompagné de Fendoel. Bonjour Fendoel.
Salut Paul Gara.
Comment vas-tu ?
Bah oui, ça va, très bien. On poursuit l'après-midi, donc tout va bien.
Et nous accueillons pour cette interview Cesare Menardi d'Atalia. Bonjour Cesare.
Bonjour.
Alors Cesare, pour cette interview et pour toutes les interviews que nous avons menées sur ce festival, nous avons un fil rouge, c'est-à-dire une série de questions pour détendre l'ambiance. Alors pour toi Cannes, c'est plutôt les jeux ou plutôt le cinéma?
Les jeux, clairement.
Est-ce que tu es plutôt bière ou plutôt champagne?
Bière.
Est-ce que tu es plutôt camping ou martinez?
Ni l'un ni l'autre, on peut dire.
Ni l'un ni l'autre, entre les deux. Plutôt off ou plutôt dodo?
Récemment, plutôt dodo quand même.
Faut récupérer des journées?
C'est ça. On fait le off nous-mêmes pour tester les jeux qu'on nous propose de distribuer.
Donc ça t'occupe finalement, c'est pas le vrai off, mais c'est un autre off.
C'est ça, c'est le off du off.
D'accord. Plutôt salon ou plutôt festival?
Plutôt salon.
Plutôt pro ou plutôt perso?
Pro.
Merci pour toutes ces réponses. Donc Cesare, tu es quel est ton rôle au sein de Atalia?
Je suis le fondateur et le gérant.
Tu as fondé Atalia en quelle année?
C'était février 2015, donc il y a 4 ans.
Il y a 4 ans. Et quelle est la particularité d'Atalia?
Je dirais qu'on en a plusieurs. La première, c'est qu'on est uniquement distributeur. On n'a pas de jeux qu'on édite nous-mêmes. Éventuellement, on en localise certains. Mm-hmm. Et puis, dès le départ, on a essayé de privilégier la qualité et la quantité. Donc, on a été très sélectif dès le départ. Et la volonté, c'était d'avoir un catalogue d'un maximum d'une trentaine de références pour qu'on puisse les pousser davantage. Alors, dans un contexte récent de marché de plus en plus saturé à mes yeux, on a davantage exagéré cet aspect sélection qu'on a. Et cette année-là, par exemple, on va avoir beaucoup moins de nouveautés que l'année dernière, mais pas parce qu'on n'en trouve pas, c'est justement parce qu'on veut le mieux du mieux. Et sinon, on préfère pousser de vieux, entre guillemets, jeux, mais bons, sur lesquels on croit, plutôt que de nouveaux. Faire de la nouveauté pour faire de la nouveauté, ça m'intéresse pas.
Vous avez quelques jeux qui sont quand même des grosses ventes. Je pense à Magic Maze, qui est une bonne locomotive pour vous,
oui.
Depuis oui. 2 ans, à peu
oui.
près.
Magic Maze, qui continue effectivement à se vendre et aussi bien, et les boutiques se bagarrent à l'époque, le peu de quantité qu'on arrive à fabriquer, parce qu'on n'a toujours pas assez par rapport à la demande. Et encore pire pour Nanda Renard, qui a gagné l'As d'Or l'année dernière. On a vendu environ 20 000 et on aurait pu vendre beaucoup plus, mais on était souvent en rupture de stock.
Comment vous le gérez, ça, les ruptures de stock vis-à-vis des éditeurs que vous référencez? Enfin, comment ça se gère? Vous leur remontez en leur disant, il y a vraiment un problème, on a une très forte demande?
Oui, alors avec les éditeurs dont je suis uniquement distributeur et du coup c'est eux qui gèrent. Oui, moi je ne fais que remonter les informations. Pour Nanda Renard, ben là c'est une localisation que nous avons fait, que nous sommes responsables des ruptures quelque part. Mais bon, c'est la première fois qu'on a un jeu qui part aussi. Ça marche encore mieux que Magic Maze dont tu parlais. Bien qu'effectivement, même Magic Maze c'est un excellent succès. C'est un jeu qui est rentré partout, même dans la GSS. Et donc, je disais, oui, c'est un gros succès. Donc, nous, en étant la première fois qu'on a un tel succès, c'était difficile à mesurer. On est quand même une petite structure. Donc là, c'est de l'investissement ferme. Et quand on a dû préparer, par exemple, la commande pour Noël, ben, on n'avait pas assez de trésor pour commander autant de ce qu'on pensait pouvoir vendre, effectivement. Donc, on savait pertinemment qu'il y avait un fort risque de rester en rupture. C'est pourquoi, quand on a reçu les jeux, on avait tout de suite limité, par exemple, les commandes, le nombre d'unités qu'on donnait en disponibilité à chaque boutique, pour qu'au moins essayer que tout le monde en ait un petit peu. Alors, c'est ce qu'on a essayé de faire.
Donc tu nous as dit parmi tes locomotives, donc il y a Magic Maze, Nom d'un renard. Et est-ce que vous avez d'autres jeux phares qui sont représentatifs d'Atalia?
Après, au niveau locomotive, et ça c'est plutôt surtout vers le GSS, c'est toute la gamme Limit Limit qui n'a rien à voir avec les deux autres jeux.
Oui.
C'est un jeu adulte, ambiance plutôt trash.
D'accord.
Mais qui marche excellemment, très très bien en fait.
Donc en gros, c'est vos trois best-sellers.
C'est ça.
Pour ce CAN, est-ce que vous avez donc tu nous as parlé de quelque chose comme 6 nouveautés, c'est ça? Ou cette année qui serait présentée sur votre stand?
Comme nouveauté cette année, on présente 4 nouveautés.
4 nouveautés, autant pour moi.
Tout à fait. Il y a Gravity Superstar.
C'est quoi?
C'est un jeu de sit-down pour 2 à 4 joueurs. C'est un jeu un peu comme, tu vois, les jeux vidéo à la Mario, comme on saute d'une plateforme à l'autre, oui. On récupère des points. Et là, c'est le même principe. On a des plateaux qui sont générés au hasard, où il y a des plateformes un peu dans tous les sens. On pose des étoiles à des emplacements bien précis et on doit récupérer un maximum d'étoiles en sautant de plateforme à l'autre avec l'aide des cartes. On a 5 cartes différentes. À chaque tour, on joue une carte et on peut, grâce à ça, éventuellement sauter dans une direction plutôt qu'une autre. Et si on se retrouve dans le vide, ben, on tombe selon la gravité qui est en direction de ses pieds. Le personnage est à plat sur le plateau, en fait. Hein. Donc, il va tomber en direction de ses pieds jusqu'à la prochaine plateforme. Et une caractéristique du jeu, c'est qu'une des 5 cartes permet de changer la gravité. Donc, on retourne le bonhomme là où on souhaite. Donc, du coup, il était tranquillement posé sur une plateforme. Et en réalité, au bout d'un moment, il se retrouve catapulté, gravitationné ailleurs. Je ne sais pas si on peut dire ça.
D'accord. Oui, entraîné voilà. Dans une autre direction.
Exact.
Et le but du jeu, c'est d'arriver à la fin de ces tableaux ou
récupérer un maximum d'étoiles. Et jusqu'à ce qu'il y ait un certain nombre sur le plateau qui reste, à ce moment-là, la partie finie.
Ok.
Et celui-là, chaque étoile, c'est un point. Chaque couple d'étoiles de la même couleur va donner un point supplémentaire. Et c'est un jeu très tactique, en fait. C'est vraiment très, très simple parce qu'on a les 5 cartes. On doit jouer une à la fois. Ou sinon, on doit récupérer toutes les cartes déjà jouées, à moins d'avoir joué toutes les cartes. Dans ce cas-là, on peut à la fois jouer et récupérer les cartes. Et après, en termes de règles, vraiment, il n'y a pas grand-chose de plus. Donc, hyper accessible. Mais du coup, il y a un petit côté programmation, il y a pas mal de réflexions, des tactiques, des stratégies aussi. Et il y a de l'interaction aussi, parce qu'on peut, si dans sa chute, on va toucher ou tomber sur... un adversaire, et ben on l'éjecte provisoirement du plateau, on lui pique une étoile et du coup il va rentrer en jeu à son tour, mais d'une porte, il y a des portes qui s'ouvrent cycliquement, donc il va recommencer dans un endroit qu'il n'avait pas forcément prévu d'être. Donc s'il avait une stratégie, cette stratégie peut-être tomber. Voilà, c'est ça.
Et dans les autres sorties, vous avez quoi chez Atalia?
On a Bad Bones, qui est toujours des sit-down. Là, on a aussi sur un jeu assez plutôt accessible, mais c'est un gros jeu dans le sens que c'est très riche en matériel, en mode de jeu. C'est une boîte qui pèse 3 kilos.
Oui, j'ai vu qu'il y avait une petite... en passant, il y a une petite pancarte avec le prix au kilo, c'est ça?
C'est ça, 16 euros au kilo.
Ouais, je trouve ça.
Donc, je vous laisse faire les calculs.
C'est ce qu'on voit d'habitude dans les Kickstarter, quand on pèse, on dit, voilà, on va recevoir des colis de tant de kilos.
Ouais, parce qu'effectivement, c'est assez surprenant quand on prend la boîte en main. Pour une fois, une boîte qui n'est pas vide, au contraire.
Ouais.
C'est un jeu pour de 1 à 6 joueurs, parce qu'effectivement, peut être un mode de jeu, c'est jouer tout seul. Un mode de jeu, c'est jouer en coopératif. Et l'autre, c'est jouer en compétitif de 2 à 6 joueurs. Et du coup, déjà, il y a un plateau individuel relativement grand par joueur. Donc, rien que ça, ça pèse. C'est un tower defense. Donc, on a des hordes, des squelettes qui arrivent en jeu toujours plus nombreux. Et donc on doit essayer de protéger sa tour et son village un maximum de temps. Quoi qu'il arrive, un joueur il va avoir sa tour ou son village détruit, parce que là, à ce moment-là, la partie, il finit immédiatement. Lui, il a perdu, quoi qu'il arrive. Et du coup, on va regarder les autres, combien de points ils ont. Celui qui a le plus de points gagné.
Et gagne la partie.
Ouais. Et c'est un jeu, du coup, qui est, contrairement à le mode coopératif, lui, il est assez, il y a vraiment de l'interaction forte, directe.
Un peu agressif.
Oui. Je sais pas si on peut utiliser d'autres termes qui me viennent à l'esprit, mais on laisse tomber.
Bah, forte interaction, c'est bien.
Voilà, ça suffit. Et du coup, genre, on met un piège pour des squelettes, une catapulte, par exemple. Donc, le squelette, il arrive sur la catapulte. Et du coup, le squelette est catapulté dans le plateau d'un adversaire. Donc, c'est l'adversaire qui est content.
Ça met la bonne ambiance avec les voisins.
C'est ça. Mais c'est aussi un jeu très simple d'accès. C'est l'un des tarifs de défense que je connais les plus simples comme principe, mais quand même assez profond. Et puis, il y a un mode qui explique aussi le poids de la boîte. C'est qu'il y a pas mal de choses qui peuvent être rajoutées pour complexifier le jeu. Il y a davantage de pièges, il y a des pièces pour acheter les pièges, donc on peut personnaliser sa défense. On a des habilités qu'on peut donner à son héros pour combattre mieux les squelettes. Et par contre, on a aussi des squelettes qui arrivent qui sont un peu vitaminés.
Bon, ça a l'air intéressant en tout cas.
Tout à fait.
Un autre jeu, la troisième sortie.
Alors ça, c'est un jeu architectural. Et c'est un petit jeu de cartes qui c'est de Game Brewer, qui nous avait habitués jusqu'à là à des gros jeux comme Gugong, comme Gentes ou Pixie Queen. Là, c'est un petit jeu de cartes à 15€ de 2 à 4 jours, un quart d'heure. Et en fait, c'est la localisation d'un jeu russe de Hobby and World qui avait très bien marché. On a des cartes qui représentent des bâtiments avec des points et chaque bâtiment a une habilité, une capacité bien spécifique. À tour de rôle, on joue une carte dans la ville à côté d'une autre et ça interagit sur la valeur de la carte précédente et ça interagit grâce à l'habilité avec les autres cartes de façon diverse et variée. Il y a des combinaisons qui peuvent se créer. Donc là, les règles sont vraiment basiques. Il y a 2-3 règles aussi seulement. Et par contre, on se retrouve devant un jeu plutôt tactique, léger, mais où on doit vraiment réfléchir à comment optimiser les cartes qu'on a en main.
C'est chez quel éditeur?
C'est Game Brewer. Okay. C'est celui qui est fait justement.
Gugong, oui.
Ouais, tout à fait. Qui est spécialisé surtout en gros jeux jusqu'ici. Ouais. Mais dont ce n'est pas forcément la volonté de faire que des jeux gros jeux. Ils sont un peu comme nous. Ils essayent de chercher des jeux dans lesquels ils croient fermement plutôt que sortir un jeu parce qu'il y a une ligne éditoriale bien précise. La nouveauté suivante, c'est un autre jeu encore à Game Brewer. Qui a été SN, peut-être ils l'ont vu, il y avait un petit tirage, s'appelle Festo. Et là, on est devant un familial plus. C'est un jeu où on doit récolter des ingrédients, acheter des ingrédients au marché pour créer des plats. Donc, on est tous des cuistots. On doit créer des plats pour le roi et c'est un jeu de poste d'ouvrier ou de poste de commis plutôt. Mmh. On envoie les commis dans les différents marchés et puis il y a des notions de majorité sur les différents marchés qui font que on peut prendre davantage d'ingrédients que les autres joueurs avec un donc familial parce que effectivement c'est très simple pour le genre. Plus parce que malgré tout, comme tous les bons jeux de placement d'ouvriers, il y a pas mal de réflexions et aussi une forte interaction, surtout quand on joue de 3 à 5. À 2, on peut jouer à 2 aussi, mais forcément il y a pas cet aspect d'interaction qui devient presque une diplomatie, je dirais, parce que à un moment donné, on se met d'accord entre joueurs pour ne pas se gêner entre les majorités et plutôt aller gêner le joueur qui est en tête. Chose comme ça.
On parlait de Gugong, donc chez Game Brewer que vous distribuez, qui est un jeu d'Andreas Stedding. Vous aviez déjà distribué Ansa Teutonica. Il me semble que c'est un jeu qui était passé sur Kickstarter, aussi comme Gentes.
Oui.
Comment vous n'êtes pas trop le fait d'avoir un jeu qui est d'abord passé sur Kickstarter en financement participatif quand on est distributeur, parce que le financement participatif squeeze la boutique, squeeze le distributeur finalement.
En partie, oui.
Comment tu le vis, toi, ce développement très fort du Kickstarter
De la part d'un petit éditeur, ça me semble normal de trouver des moyens de financer. Je l'ai vécu moi-même pour Nom de Renard. Je n'ai pas voulu passer par Kickstarter pour financer Nom de Renard pour Noël. Du coup, les banques ne donnent pas de sous pour acheter des matériels, comme des marchandises, pas entre guillemets. Du coup, eux, ils se financent comme ça. Je trouve ça normal. Du moment où j'estime qu'il reste un potentiel de vente après le Kickstarter, ça ne me gêne pas. Forcément, j'en vendrai un tout petit peu moins. Mais il faut pas croire, déjà, ce sont des Kickstarter qui généralement sont faits à l'échelle mondiale. Une grande partie de volumes sont achetés aux États-Unis. Donc en France, finalement, le nombre de boîtes qui squeezent le circuit.
Ça parasite pas trop le marché.
Ouais. Tout à fait, ouais. Au contraire, ça peut même aider dans le sens que à la sortie du jeu, il y a déjà tout un tas de gamers qui parlent du jeu parce qu'ils l'ont testé, il est bon et du coup, ça donne envie aux autres de le découvrir également.
Ça fait une forme de publicité un peu gratuite.
Ouais.
Et justement, en tant que distributeur, c'est pas évident de faire la promotion des jeux de façon classique, hein, comme les autres produits, parce qu'on va pas faire des spots télé, dans la presse et de la presse très spécialisée. Est-ce que tu vois l'avantage aussi de se baser sur la communauté ludique, en fait, qui est un peu au fait de l'autopromotion pour le jeu? Enfin, comment on occupe justement les réseaux sociaux, les pages Facebook, enfin tous ces outils-là, comment on peut les utiliser?
Ben nous, on essaie effectivement d'être très présent sur les réseaux Facebook, notamment, mais on a aussi une page Twitter et Instagram depuis peu. C'est la modernité. Maintenant, il faut y être. Donc nous, on a presque sur Facebook, on essaie de mettre un article par jour parce qu'on a toujours au moins généralement, on a plus qu'un article par jour qui parle de nous. Mais ce qui nous semble le plus adapté, par rapport au moment, par rapport au jeu qu'on veut pousser. Et on essaie aussi, moi je suis beaucoup le réseau de ludistes francophones, par exemple, parce que j'en suis un déjà. Et puis forcément, je fais ce métier-là par passion, donc je me sens d'abord, avant tout, l'audiste francophone moi-même. Et puis bon, c'est sûr que c'est un réseau avec beaucoup de joueurs dedans, donc c'est aussi un outil pour se faire connaître, pour répondre aux questions de joueurs. Souvent il y a des questions sur un jeu, sur les SAV, sur choses comme sur les SAV, c'est mieux de contacter directement. C'est des choses qui peuvent être un peu délicates parfois, mais en même temps, c'est des choses qui arrivent à tout le monde. Donc, s'il y a un problème, nous, on est toujours disponible et réactif de plus en plus, surtout depuis qu'on a embauché un responsable pour cela. Et puis, tout ce qui est communication. Oui, on nous demande là, par exemple, au mois de mai, on va voir Underwater Cities. Donc, il y a pas mal de gens qui nous demandent, ah oui, est-ce qu'il va être le même matériel, est-ce que c'est vrai, c'est vous qui le faites, est-ce que voilà.
Oui, c'est un jeu qui est très attendu dans Water Cities, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se sont déjà plaints qu'ils ne soient pas présentés, qui attendaient. Bon, il y avait deux jeux très attendus et il en faisait partie.
Il n'y en avait pas assez pour tout le monde. C'est un jeu multilingue. C'est un jeu qui a SN à cartonner.
Oui, il y a du très bon retour.
Il a gagné le Diamant d'Or, qui pour moi est l'un des meilleurs prix experts de France. Donc, ouais.
Donc tu disais aussi qu'à Atalia, tu avais toujours privilégié la qualité des jeux que tu proposais plutôt qu'un catalogue pléthorique. Toi, si tu devais te définir en tant que joueur, du coup, quelles sont tes mécaniques préférées? Si tu avais un jeu à retenir, enfin pour...
Non, pour moi, il n'y a pas une mécanique ni un jeu à retenir. Moi, je suis quelqu'un d'assez éclectique. Je suis un touche-à-tout dans la vie et pareil dans le monde du jeu. J'aime faire un tout petit peu de tout. Alors après, par contre, surtout depuis que j'ai fondé Atalia, je n'ai plus du tout de temps pour jouer pour moi, pour mon plaisir personnel. Je fais un métier qui me permet de jouer pour le travail, ce qui n'est pas malheureux, au contraire. Mais du coup, je joue quand j'ai envie de jouer avec mes enfants, par exemple, rien que pour le plaisir, on a peu de temps. Et alors c'est vrai que souvent, on sort les petits jeux plus rapides. Donc, de tous les jeux qu'on a cités aujourd'hui, on pourrait parler de Gravity Superstar. C'est un jeu en 20-30 minutes, on joue. Architectura, c'est un quart d'heure. Et on a un qui sortira en juin, qui dure même 5 minutes et qui est génialissime. Donc,
ça s'appelle comment?
Ça s'appelle Punto.
D'accord. Et c'est de qui et c'est chez qui?
C'est un petit jeu, alors vraiment petit, hein. C'est format de poche. Là, malheureusement, c'est qu'un podcast, donc vous pouvez pas le voir, mais je l'ai sur moi. Et c'est pas un hasard parce que je l'ai toujours sur moi. Je me sens nu sans Punto.
C'est la tagline, la phrase d'accroche.
Je sais pas, mais c'est la vérité en tout cas.
Je pense qu'on va tweeter avec cette phrase.
Et c'était un petit jeu à 7 €, qui sortira à 7 €, tout petit, qui est malin, intelligent, comme ça peut être en théorie, allez, en puissance 4, on peut dire comme ça, mais familial, et comme un Uno, donc vraiment très accessible. Il y a deux règles uniquement, et tu verras, certainement on parlera de beaucoup de ces jeux-là, parce que ceux qui ne sont pas joueurs du tout, ils y jouent autant qu'on peut jouer à Uno, par exemple. Et on était à l'autogrill l'autre jour en venant à Cannes avec mes animateurs, qui sont tous des gamers. On a sorti ça à la fin du repas. Ben, on a failli pas arriver à Cannes, hein, parce que, allez, on a fait une autre, on a fait une autre, on a fait une autre. Mais non, mais il y a 5 heures, en fait, à Cannes. Donc, il faut partir.
Donc, ça marche très bien.
Tout à fait.
Bon, on est impatients. Est-ce que tu as d'autres sorties cette année qui seraient intéressantes de...
Donc, Festo, on en a parlé, c'est pour le 1er d'avril, et c'est pas un poisson d'avril. En mai, on a, ce dont on parlait, Underwater Cities. Ouais. Et on a aussi Prehistory. Mm-hmm. Qui lui est troisième aussi.
Oui, qui a aussi gagné, qui était dans le podium.
Oui, le troisième dans le Diamant d'Or. Ouais. Donc du coup, on aura le premier, le troisième, le quatrième et le septième. Voilà, dans le catalogue.
C'est la classe. Est-ce que tu penses que tu es le pourvoyeur de gros jeux en France?
Non, quand même. Je suis très satisfait du travail que nous faisons. Je pense que nous faisons des bons travail, mais nous sommes les seuls qui font des bons travail.
Et justement, donc ton travail, est-ce qu'il y a une partie prospection, j'imagine, pour essayer de trouver des pépites à localiser, ou est-ce que c'est des éditeurs qui viennent vers toi pour être distribués par toi, ou c'est plutôt
les deux?
Les deux, ouais. Mmh.
Les deux, nous on va tous les ans à Essen et à Nuremberg, salon professionnel. Donc on rencontre tous les éditeurs qui ont des produits qui nous intéressent, tous les éditeurs avec qui on travaille le mieux, on va dire. Et puis il y a toujours de nouveaux éditeurs qui arrivent sur le marché. Je suis assez ouvert d'esprit, donc je rencontre, j'écoute tout le monde. Puis je suis connu pour être assez franc dans le métier, donc si un jeu je trouve que ça va pas, je le dis tout de suite.
Alors qu'est-ce qui vient ensuite?
Ah ben toujours au mois de juin, il y a les Junkies. C'est un petit jeu d'ambiance.
On a reçu les gens de chez Schwick cet après-midi, mais vas-y, un petit jeu d'ambiance.
Ben du coup, je vous invite à écouter le podcast directement. Ils en parleront mieux que moi, mais c'est un petit jeu d'ambiance où on doit juger les gens qui font quelque chose. En général, c'est que des choses qui nous énervent, et donc il y a des choses plus graves que d'autres. On doit les juger, et puis nos amis doivent deviner ce qu'on a jugé. Alors c'est un jeu qui fait beaucoup débattre entre amis. Qui fait découvrir les fachettes cachées de ses amis, et qui, contrairement à certaines attentes, souvent on s'attend à un jeu trash. Alors je dirais que non, c'est pas trash du tout, c'est juste un jeu adulte, parce qu'effectivement les sujets sont quand même délicats parfois, oui, mais pas trash. Et puis voilà, après la deuxième partie de l'année, on a déjà pas mal de nouveautés qui vont arriver, des partenaires comme Game Brewer, dont on a parlé, Brain Games et Sit Down. Mais là, pour le moment, certains jeux, on n'a pas encore le nom exact, donc on sait qu'on a du bon qui va arriver. Il faut voir comment ça va s'empiler tout ça. On essaie de ne pas les chevaucher, si possible, bien que nous sommes un peu dépendants des éditeurs qui souvent, malheureusement pour nous, mais je comprends qu'ils fassent ça, essaient de faire en sorte que les nouveautés arrivent pour SN, donc au mois d'octobre, parce qu'on vend beaucoup directement, les éditeurs vendent directement à SN, et ils vendent beaucoup, c'est pas comme le festival de Cannes, il y a une mentalité différente là-bas, on va vraiment à SN faire les courses. Et du coup, au mois d'octobre, on se retrouve toujours avec un peu trop de nouveautés.
Est-ce que tu essaies de Enfin, je sais que BlackRock, par exemple, coordonne beaucoup, enfin fait des réunions ou fait venir les éditeurs régulièrement pour qu'ils discutent entre eux et entretient une communauté de, d'éditeurs. Est-ce que tu fais ce genre de choses ou pas nécessairement ?
On essaie de faire, oui, tout à fait.
Est-ce que tu veux ajouter autre chose ?
Non, ben merci de m'avoir accueilli. C'était la première proxy jeu.
Merci à toi d'être venu.
À bientôt sur. On ne dit pas votre antenne, on dit comment ?
Tu peux dire notre antenne.
Ouais, tu
voilà.
Peux le dire.
Chères auditrices, chers auditeurs, si cette interview vous a plu, partagez-la et rendez-vous sur notre page Tipeee. Pour rappel, Tipeee, c'est le moyen de nous aider en finançant notre podcast. C'est aussi ce qui nous a permis de venir à Cannes pour réaliser ces interviews. Donc, on vous remercie. On remercie aussi le Festival de Cannes qui nous a gentiment prêté le stand. On se retrouve très vite sur Proxy Jeux pour une autre interview ou un autre format. À bientôt et surtout, jouez bien.